Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Au Capi Service. Nous allons parler dans quelques instants des maladies rénales. Quelles sont les causes, traitements et moyens de prévention? Nous recevons dans ce studio le professeur Justine Boukaba, néphrologue. Bonjour, professeur. Voilà, elle n'est pas seule. Nous avons également le professeur Moko Livieux, néphrologue. Bonjour, professeur.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue dans cette émission pour parler des maladies des reins. Vous avez des questions et préoccupations, eh bien, composez le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radioukapi.net. Laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Alain Goy assure la mise en onde. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission qui présente jeudi Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radioocapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radioocapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Bien, nous parlons aujourd'hui des maladies rénales. Vous savez, les maladies des reins constituent un véritable problème de santé publique. Elles touchent près de 12,4% de la population quinoise, soit un adulte sur 8, d'après les experts. Et pourtant, le rôle des reins est essentiel puisqu'ils fonctionnent comme un filtre qui sépare les déchets circulant dans notre sang et les élimine en produisant l'urine. Alors, lorsque le filtre naturel du corps humain tombe en panne, cela peut entraîner une accumulation des déchets dans le sang. Et si ce problème n'est pas traité, il peut provoquer des complications et entraîner le décès. Alors, quelles sont les causes des maladies des reins? Comment les traiter? Quels sont les moyens de prévention? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions dans les minutes qui suivent avec nos invités. Nous avons dans ce studio le professeur Justine Boukabao, néphrologue, et puis le professeur Moko Livieux, il est également un néphrologue. Professeur Justine, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on on parle des maladies des reins, maladies rénales, de quoi s'agit-il?
Il s'agit de maladies qui attaquent les reins. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Quand nous parlons des maladies des reins, ça veut dire que les reins ne sont plus en bonne santé, les reins souffrent. Et cette souffrance des reins, ça peut être catégorisé en deux groupes. Les reins peuvent souffrir, mais continuer à fonctionner normalement. Donc on verra les signes indirects qui montrent que les reins souffrent, tels que la perte de protéines dans les urines, la présence du sang dans les urines, ou dans le sang, on va constater qu'il y a une accumulation de déchets que les reins qui fonctionnent correctement devaient éliminer.
Professeur, aide-nous à comprendre, c'est quoi le rein? On parle des reins, on entend souvent parler des reins, mais de quoi s'agit-il?
Les reins, ce sont deux organes en forme d'haricot, pesant chacun 150 grammes seulement, et d'une longueur d'environ 10 à 12 centimètres. Ces reins-là, ce sont en fait des organes très importants de notre organisme parce que c'est des filtres, c'est des organes qui permettent à ce que le sang soit purifié. Mais en dehors du fait que les reins contribuent à purifier le sang, les reins jouent plusieurs autres rôles, tels que éliminer tout ce qu'il y a comme déchets, par exemple des médicaments ou de tout ce qu'il y a comme produits toxiques entrés dans notre organisme. Les reins gèrent la quantité de l'eau du corps, ce qui fait qu'en fait, quand vous avez bu excessivement, l'excès inutile sera éliminé au niveau du rein.
Par les urines.
Oui, par les urines. Les reins gèrent également la quantité de sel de notre sang. Je crois que vous avez déjà eu la sueur est déjà entrée dans votre bouche. Vous avez remarqué que
ça a un goût salé. Hein?
Salé, voilà. Oui. Donc dans le sang, il y a du sel. Dans ces sels, parmi ces sels-là, nous avons notamment le sodium, le potassium. Ces différents sels-là, la quantité dans le sang doit rester constante. Pas en excès, pas trop peu non plus. Et c'est les reins qui assurent cet équilibre-là qui fait que la quantité de sel du corps soit normale. Tout ce qui se fait comme travail dans l'organisme produit également, en plus des déchets éliminés par les reins, produit les acides. Et ces acides-là sont éliminés par les reins. Parce que quand
donc
le sang...
c'est un filtre naturel qui se trouve dans les corps humains.
C'est plus qu'un filtre. Reins jouent le rôle de filtre et plusieurs autres rôles, notamment gérer la pression de notre sang, la pression artérielle. Pour que nous puissions avoir une pression artérielle normale, les reins interviennent en sécrétant des substances qui permettent à ce que la pression artérielle soit normale, mais qui agissent au niveau des vaisseaux.
D'accord.
Mais les reins gèrent également la quantité du sang du corps et les vitamines du corps, telles que la vitamine D, qui permet à ce que nos os soient solides en favorisant l'absorption du calcium.
Bien. Alors, une autre question, je l'adresse au professeur Monco Olivier, qui est aussi néphrologue. Alors, qu'est-ce qui fait que le rein peut commencer à connaître des problèmes? Parce que c'est vraiment un organe très important dans le corps humain, mais quelles sont les causes qui peuvent commencer à poser des problèmes, voilà, à les mettre, à les rendre malades, disons.
Effectivement. Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord souligner le fait que il y a deux types de maladies des reins. Il y a ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë, qui a des causes propres à l'insuffisance rénale aiguë. Et il y a ce qu'on appelle la maladie rénale chronique, qui a aussi des causes qui sont différentes de celles qui sont liées à l'insuffisance rénale aiguë. Alors, pour ce qui est de l'insuffisance rénale aiguë, nous pouvons dire que l'insuffisance rénale aiguë, c'est quoi? C'est quand les reins souffrent de façon très rapide, mais pouvant être réversible. C'est-à-dire qu'on peut récupérer dans 50% des cas. Là, on parle d'insuffisance rénale aiguë. Et dans ces groupes d'insuffisance rénale aiguë, la principale cause chez nous, c'est la malaria. La malaria est une principale cause d'insuffisance rénale aiguë.
Ok.
En deuxième position, il y a les infections en général, les infections sévères qui sont à la base d'insuffisance rénale aiguë. À côté de ça, en troisième position, il y a tout ce qu'on appelle néphrotoxicité, c'est-à-dire des produits qui peuvent être toxiques pour les reins.
Ça peut lesquels, par exemple?
Ça peut être des produits pharmacologiques des médecines modernes, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça peut être aussi des antibiotiques comme les aminosites, mais c'est surtout les recours aux plantes,
médicinales
qui causent
les tradipraticiens qui font tout le temps la pub.
Malheureusement, comme les reins a pour fonction d'éliminer ces produits-là, quand ces produits-là sont toxiques, parce que la dose est peut-être plus élevée, alors ça cause l'insuffisance rénale aiguë. C'est une bonne part d'insuffisance rénale aiguë que l'on peut remarquer dans notre pays. Mais il y a aussi le fait de perdre beaucoup d'eau. Par exemple, en cas de diarrhée, en cas de vomissement important, surtout chez les enfants, cela peut entraîner des cas d'insuffisance rénale aiguë. Ça, c'est en rapport avec ce qu'on appelle insuffisance rénale aiguë, donc une atteinte rénale qui est très rapide, mais qui peut être réversible dans 50% des cas. À côté de ça, il y a la maladie rénale chronique. Alors, pour la maladie rénale chronique, il y a trois grandes causes chez nous. D'abord, il y a des infections chroniques. il y a les infections qui sont à la base des maladies rénales chroniques, mais il y a en deuxième position l'hypertension artérielle. Beaucoup d'hypertendus ont comme complication des cas de maladies rénales chroniques. Et il y a aussi le diabète sucré. Alors, à côté de ces trois grandes causes, il y a d'autres facteurs qui favorisent des maladies rénales chroniques, comme l'obésité, le surpoids, et puis des maladies comme la drépanocytose, l'anémie SS, peut se compliquer des maladies rénales chroniques, mais aussi des maladies congénitales, des maladies qui existent depuis la naissance, comme la polykystose rénale, c'est aussi des causes des maladies rénales chroniques. Et enfin, nous devons souligner le fait que quand on a une insuffisance rénale aiguë, il y a 40% des chances d'aller vers une maladie rénale chronique. Parce qu'on a dit qu'on récupère dans 50%.
Oui.
Mais dans 40%, on récupère pas. On garde une maladie rénale chronique. Mais dans 10% des cas, on arrive directement au stade terminal des maladies rénales chroniques. Stade qui nécessite la dialyse. Et là, c'est un drame. Quand on arrive au stade terminal de la maladie rénale chronique, il y a que la dialyse ou la transplantation rénale qui peut faire en sorte qu'on puisse rester en vie.
Bien, on dit souvent que c'est les maladies rénales sont viennent à bas bruit, c'est des maladies silencieuses. Professeur Justine.
Merci pour la parole. J'ai saisi cette occasion de par cette question pour recadrer un peu une petite chose. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de rein. La Journée mondiale de rein est instituée depuis 2006 seulement. Pourquoi on l'a instituée depuis 2006 seulement? C'est en fait le deuxième jeudi du mois de mars de chaque année. Cette journée mondiale est instituée parce que les besoins se font sentir. Les maladies de rein sont fréquentes. Actuellement, en 2019, les études ont montré que 850 millions de personnes au monde souffrent de maladies de rein. Vous l'avez dit, chez nous, au Congo, un adulte sur 8 en souffre. Et chez les enfants ne sont pas épargnés. Un enfant sur 50 en souffre. Mais ces maladies des reins évoluent généralement dans les cas, là je parle des cas chroniques, pas aigus. Parce que les cas aigus, la symptomatologie est en rapport avec la maladie causale. Ce sont des signes de la maladie qui est à la base de l'atteinte rénale qui vont se manifester. Mais dans les autres cas, un hypertendu, un diabétique, un obèse, ou quelqu'un qui a une infection chronique, les néphrons qui sont les unités fonctionnelles seront détruits progressivement et seront éliminés. Et dans ces cas-là, jusqu'à plus de 50% des néphrons seront détruits de manière asymptomatique. C'est asymptomatique, il n'y a aucun signe. Signe clinique. Donc la personne dit, je suis en bonne santé. Je n'ai pas de problème de santé.
Je n'ai pas de problème, mais pourtant, il y a déjà des problèmes.
Il y a des problèmes. Mais comment les savoir? On va les savoir en faisant des examens simples. Juste un peu d'urine, on plonge une bandelette dedans, on peut lire cette bandelette-là et détecter la présence de protéines qui peut être un des signes d'atteinte rénale. On peut détecter les globules rouges, dont la présence du sang. On peut détecter des globules blancs. À ce stade-là, la personne ne sent rien, sauf dans quelques cas rares où on peut avoir des œdèmes, un gonflement, les œdèmes du visage, les œdèmes de membres inférieurs ou même une ascite donc qui se manifeste par un gros ventre.
Donc ce sont les symptômes de maladie rénale.
Les symptômes de maladie rénale, dans l'ensemble, au début, il n'y a pas de signes. Quand les maladies des reins se font découvrir par des signes, c'est qu'en fait, la maladie est déjà avancée. Et ces signes-là, c'est des signes, en fait, de l'accumulation des déchets dans l'organisme, les déchets qui ne sont pas éliminés, et les signes de l'excès de liquide que les reins n'arrivent pas à éliminer, parce que les reins, ce sont les organes qui gèrent la quantité d'eau du corps. Alors, quand ces déchets-là s'accumulent, qu'est-ce qui va se passer? La personne deviendra faible. La personne est fatiguée. La personne peut commencer à vomir. La personne peut avoir du mal à réfléchir. Cela peut aller jusqu'à un coma. La personne peut convulser. Ça, c'est au niveau
de son... Dans combien de temps? Là, ça prend combien de temps pour arriver jusqu'à ce niveau-là?
Ça dépend de la cause de la maladie, mais la personne peut rester comme ça pendant plus de 10 ans, voire même 20 ans. La maladie peut évoluer comme ça...
Pendant toutes ces années.
Pendant toutes ces années, la personne ne sent rien. Et quand on lui pose la question, la personne peut même dire non, je suis en bonne santé, même si on lui avait déjà dit une fois que tu as un problème avec tes reins. Mais étant donné que la personne ne sent rien, la personne va se dire non, je suis en bonne santé. Et en plus de ce que je venais de dire, la personne peut commencer à somnoler ou à dormir plus.
Pendant la journée.
Pendant la journée, la personne peut dormir pendant la journée et pas la nuit. Et à la fin, la personne peut entrer en coma. La personne peut présenter les hoquets, en plus de vomissements que je venais de dire. La personne peut présenter l'anémie, la carence de sang, parce qu'en fait, les reins, c'est un organe qui synthétise également l'érythropoïétine qui nous permet d'avoir un taux d'hémoglobine correct parce que ça favorise la production de globules rouges. La personne va avoir aussi des douleurs, elle peut avoir des douleurs au niveau de ses jambes parce qu'en fait, l'accumulation de déchets peut entraîner l'atteinte des nerfs. On va parler d'une neuropathie. Et en dehors de cela, la personne peut présenter également un état en fait général, altéré de manière générale qui l'empêchera de travailler, dont la personne est épuisée, fatiguée.
Fatiguée. Et puis ça peut conduire à la mort après combien de temps?
Quand on arrive au stade terminal, il faut recourir à la dialyse, il faut aider les reins qui n'arrivent plus à fonctionner. Et aider les reins veut dire en d'autres termes, faire le travail du rein, c'est que les reins n'arrivent pas à faire. Mais on ne peut pas tout faire. Le travail du rein qu'on peut faire, c'est éliminer les déchets en faisant la dialyse, éliminer l'excès d'eau en faisant la dialyse, éliminer l'excès de sel en faisant également la dialyse, et éliminer l'excès d'acide également. Mais les restes, par exemple, la quantité de sang qui a baissé, ça, les reins, on ne peut pas remplacer autrement si ce n'est qu'en donnant l'érythropoïétine que les reins n'arrivent pas à produire et soigner les autres causes qui peuvent être à la base de cette baisse de taux d'hémoglobine. Mais on peut donner à la personne un rein nouveau par la transplantation rénale.
Ok. Professeur Vieux-Mokoli, une autre question. Voilà. Professeur Justine vient de nous parler de la dialyse, la greffe, tout ça. Alors, pouvez-vous nous parler en long et en large de la dialyse? C'est quoi? C'est le traitement approprié par rapport aux maladies rénales?
C'est un des traitements appropriés, mais ce n'est pas le traitement idéal.
Ok.
Le traitement idéal, ça consiste à greffer ou à transplanter. Donc, à donner un rein à la personne pour que ce nouveau rein puisse assurer toutes les fonctions des reins. Mais la dialyse, c'est un traitement de suppléance de la fonction rénale en attendant la transplantation. Ça consiste à quoi? Au lieu de pouvoir utiliser les reins qui sont malades, on utilise soit une machine qui va assurer les rôles de filtre, les rôles qui est révolu au rein, ou bien on peut utiliser la membrane péritonéale, donc qui est la membrane qui couvre les viscères de l'organisme. Ça, c'est ce qu'on appelle la dialyse péritonéale. Tandis que si on recourt à la machine, c'est l'hémodialyse.
Okay.
Ça consiste à tirer les sangs du corps qui va passer par la machine pour l'hémodialyse, et cette machine va enlever les déchets, comme l'excès de sel, l'excès d'eau, et le sang va revenir directement dans le corps humain. Et on fait comme ça plusieurs cycles pendant généralement 4 heures. Pour une dialyse chronique, c'est généralement 4 heures et 3 fois par semaine, en moyenne. Donc, et c'est toute la vie, en attendant la transplantation rénale. Donc, sans la transplantation rénale, la dialyse doit continuer pour une maladie rénale chronique. Mais tandis que pour l'insuffisance rénale aiguë, on peut faire aussi la dialyse, mais c'est pour un temps, en attendant que les reins récupèrent, comme nous avons dit que dans 50% des cas, les reins peuvent récupérer. Donc, on va faire ce qu'on appelle une dialyse aiguë. Ça, c'est en rapport avec l'hémodialyse. Mais il y a aussi la dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale, maintenant, consiste à mettre un cathéter dans le ventre, un tuyau dans le ventre, et à injecter un liquide spécial qu'on appelle dialysa. C'est un liquide-là, de l'eau, a un peu de sodium, a un peu de potassium, et le contact entre ces liquides-là et les sangs se fera par la membrane péritonéale qui va laisser passer des substances qui sont en excès et qui vont aller dans la cavité péritonéale, et ensuite on va drainer. Et là, on va faire plusieurs échanges. On fait généralement 4 échanges pour permettre à ce que les déchets que les reins devraient éliminer puissent passer par la membrane péritonéale, aller dans la cavité péritonéale, et ensuite on va drainer. Mais ce sont des traitements de suppléance de la maladie rénale. Malheureusement, ce sont des traitements qui coûtent.
très cher.
Ça coûte très cher.
Ça coûte très cher.
Et donc l'idéal, c'est la greffe, comme vous avez dit, la transplantation.
C'est vrai, pour ceux qui sont déjà au stade terminal. Mais l'idéal, c'est de ne jamais tomber malade.
Ah, voilà pourquoi. La prévention.
La prévention, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Et la Journée mondiale des reins a pour but surtout de sensibiliser pour permettre la prévention des maladies des rénales. Que ceux qui ne sont pas encore malades n'en souffrent pas, mais ceux qui sont malades quand même puissent avoir accès au traitement et à tous les traitements possibles. D'abord qu'ils aient accès au diagnostic, qu'il y ait une organisation telle que, même dans un centre de santé, qu'on puisse arriver à détecter à temps une maladie rénale chronique par des examens simples comme l'examen d'urine, la recherche des protéines, des globules rouges, donc du sang dans les urines, ou même la créatinine dans les sang, donc les dosages de la créatinine. Il faut que les personnes aient accès à cela, comme généralement au début, il n'y a pas de symptômes, on peut détecter à temps pour éviter maintenant que les gens évoluent vers l'état terminal par un traitement approprié. Il faut que ce traitement aussi soit accessible à toute la population pour ralentir l'évolution de la maladie rénale chronique pour ceux chez qui on découvre cette maladie rénale chronique. Donc, nous assistons beaucoup sur la prévention, mais pour ceux qui sont déjà malades, qui sont au stade 5, là, il faut que les pouvoirs publics s'engagent et nous sommes heureux qu'il y a déjà un débit pour la couverture santé universelle. Donc, nous pensons que ça peut être étendu aussi à la dialyse pour permettre aux malades qui sont au stade terminal de la maladie rénale chronique puissent être traités par la dialyse et qu'ils puissent survivre. Et il faut noter que sur 100% des patients qui sont au stade terminal de la maladie rénale chronique, pour le moment, il n'y a que 1% qui ont accès à la dialyse à cause de son coût. 1% seulement.
Le traitement coûte trop cher alors.
Ça coûte trop cher, ce n'est pas accessible à la majorité des malades, à la majorité de la population. Et en plus de cela, donc 99% meurent quand ils sont au stade terminal, ils ne vivent pas. Humeur. Donc voilà pourquoi c'est un problème de santé publique qui nécessite l'implication des autorités publiques pour essayer de voir comment couvrir ça dans le cadre de sécurité de la couverture santé universelle, ou peut-être dans un premier temps diminuer les coûts des traitements par la subvention des produits qu'on utilise dans la dialyse, qui sont généralement des produits qu'on importe. Donc si on peut faciliter des choses pour rendre vraiment les coûts très minimes, pour permettre l'accès facile, en attendant que ce soit couvert, pourquoi pas, totalement par l'État.
Bien, je vais lire la réaction d'un internaute, Monsieur Saïd, qui nous a écrit depuis Kasongo. Il vous suit depuis Kasongo dans la province du Maniema. Il pose cette question: quels sont les signes des maladies rénales et leurs effets, les effets dénonciateurs? Je pense que professeur Justine en a parlé tout à l'heure, mais vous pouvez toujours appeler professeur Vimokoli ou professeur Justine. Et ensuite, on va donner la parole à Monsieur Telesphore Ndouba, qui est président de l'association des personnes avec maladies des reins. Professeur Justine.
Merci pour la question. Je suis contente de savoir que les gens sont en train de suivre. En fait, les signes, comme je venais de le dire, je vais le répéter. Au début, les maladies rénales chroniques n'ont pas de signes. Donc, quelqu'un qui a l'hypertension, qui a le diabète, doit, observer les mesures hygiéniques, hygiéno-diététiques qu'on lui a prescrites. Il doit respecter le régime et doit prendre son traitement. Il doit être suivi par les médecins. Ça va lui éviter d'arriver au niveau de l'atteinte rénale. Mais une fois les reins malades, la personne va rester longtemps sans signe. À ce niveau-là, c'est les contrôles réguliers des urines qui vont montrer la présence de protéines dans les urines ou du sang dans les urines, ou alors l'examen de sang qui va montrer l'augmentation du taux de créatinine ou le taux d'urée, qui sont les déchets éliminés par les reins qui seront accumulés. Mais maintenant, quand la maladie avance, parce qu'en fait la maladie de rein, pour la compréhension de l'internaute, la maladie de rein ont 5 stades. Dans les 5 stades, les 2 premiers stades de la maladie de rein, on n'a que des signes au laboratoire, mais cliniquement la personne ne sent rien. Physiquement, la personne ne sent rien.
Oui.
Là, nous parlons de la maladie rénale chronique au stade 1 et 2. À partir du stade 3, dont les reins n'arrivent plus à filtrer le sang correctement, purifient moins de 60% du sang. Mais quand on purifie plus de 60% du sang, il n'y a pas d'insuffisance rénale. C'est à partir du stade 3 qu'on va parler de l'insuffisance rénale. Mais toujours sans signe. On ne sent rien. Mais la quantité de sang dans son corps commence à baisser. L'hémoglobine, quand il va vérifier au laboratoire, l'hémoglobine commence à baisser. Le taux de calcium dans le sang commence à baisser. Mais la personne
ne sent rien. Et il y a accumulation des déchets.
L'accumulation des déchets commence, mais sans signe. Maintenant, au stade 4, là, les reins n'arrivent plus à filtrer que moins de 30% du sang. Donc, le sang, c'est moins de 30% seulement qui sont purifiés. Alors là, à ce moment-là, la fatigue commence à s'installer, comme je l'ai dit. La fatigue va s'installer. La personne commence maintenant à présenter quelques nausées, le manque d'appétit. La personne peut vomir, peut avoir le problème de concentration.
C'est vous quand avez parlé aussi de la somnolence.
La somnolence, c'est quand maintenant les déchets sont vraiment accumulés, les reins n'arrivent plus à débarrasser le corps de moins de 15%. C'est le stade terminal. C'est le stade 5. Au stade 5, là, la personne commence à présenter les hoquets. La personne commence à être somnolente. La personne peut entrer en coma. À ce stade-là, la quantité même d'urine déjà diminue. Mais attention, quelqu'un peut avoir une atteinte de rein sévère, mais en urinant correctement. La quantité peut rester normale. Mais on a une atteinte de rein. Alors, en ce moment-là, si la personne est en train de chercher d'avoir les signes de l'atteinte de rein, ça risque d'être difficile.
Oui.
Donc, un hypertendu, un diabétique, un obèse, toutes les causes que le professeur Moko lui venait de citer, ces gens-là doivent savoir qu'ils doivent faire les dépistages. Il faut la détection précoce.
D'accord. On va y revenir tout à l'heure. Le temps d'accueillir M. Télésphore Ndouba Kilima. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association des personnes avec maladie des reins.
Oui.
Et vous-même, vous avez déjà subi une greffe, une transplantation des reins. Alors, racontez-nous comment votre cas, d'abord, personnellement, comment vous avez découvert la maladie. Est-ce que c'était tôt ou bien à un stade terminal?
Tel que les deux professeurs viennent de le dire là, j'ai découvert très tard.
Très tard.
Très tard. C'était en 2011. Comment diagnostiquer que j'avais ce qu'ils appellent des calculs rénaux, ainsi que de polykystose. Il y avait autant de kystes dans mes reins. Et à cette époque-là, on disait que ça fonctionnait encore bien. Ça a évolué jusqu'en 2014-2015, où, tel qu'ils le disent là, je faisais des somnolences. Je me sentais trop faible, ça ne marchait pas, trop de fatigue, ainsi de suite. Et c'est en 2015 qu'on a découvert que j'avais l'insuffisance rénale. C'est pas si c'est aigu ou chronique, mais c'était l'insuffisance rénale au stade 5 ou terminal.
Donc vous êtes allé à l'hôpital un peu plus tard, quoi.
Oui.
Tardivement, disons.
Oui, oui, oui. Oui.
Et pourquoi avoir attendu tout ça?
Je ne savais pas que j'étais malade. Parce que tout a commencé en 2002. Juste, j'étais avec les amis le soir, on se sépare, j'arrive à la maison, je dors, vers 4h du matin, je sens bas ventre des douleurs atroces.
Oui.
Bon, les douleurs augmentaient en sorte que je ne pouvais plus supporter, j'ai commencé à pleurer même à la maison et devant les enfants. J'arrive à l'hôpital, on dit non, bientôt on va vous opérer. Quelques minutes après, je ne sens plus rien. Alors, on me dit, on veut m'opérer. Je dis, non, vous ne pouvez pas. Dans les échanges, on m'a renvoyé pour que je fasse l'échographie. Et quand j'ai fait l'échographie, non, vous avez
des calculs. Et on voulait vous opérer de quoi?
Mais oui, c'est ça. Celui qui m'a sauvé, c'était l'anesthésiste qui n'était pas là.
Oui.
Non, on va vous opérer parce que non, on doit vous opérer. C'est quoi, ainsi de suite. Alors, quand je ne sentais plus rien, alors c'était après comment expliquer. Non, ce n'était pas à opérer. C'était des calculs. Dans vos reins, il y a des cailloux qui migraient des reins vers la vessie. Alors, les calculs où les cailloux étaient plus grands que les reins, c'est en passant que ça faisait mal. Mais quand c'est arrivé à la vessie, ça ne faisait plus mal. Je voulais avoir cette maladie-là en 2015, et tel qu'ils disent là, j'ai vécu ça. Et puis après, en 2015, tout ce qu'ils ont fait, moi j'ai fait la dialyse, donc 4 fois par semaine. Trois fois par semaine.
C'est coûteux, ça coûte cher.
Très cher, très cher. Je peux vous dire... En 2015, quand je devais passer ma première séance de dialyse, c'était $450. par séance.
C'était où là, aux cliniques universitaires de Kinshasa?
Je sais pas si c'était l'hôpital, mais c'était à Mayembo.
Ah, d'accord.
C'était $450.
Par séance?
Par séance. Je pensais que c'était la fin. Elle dit, mais est-ce que c'est comme ça? Non, non, quand vous commencez, c'est toute la vie. Elle dit, ah bon?
Ah bon?
Toute la vie. Et puis c'est trois fois par semaine. J'ai refusé, je n'ai pas fait. Je me suis déplacé, et je suis allé à l'étranger, malheureusement, contre ma volonté. C'est là où on m'a dit non, effectivement, vos reins ne fonctionnent plus. Ça ne fonctionne plus. Tel que vous me voyez là, chacun de nous a deux reins, mais moi je n'ai pas mes deux reins natifs. On les a enlevés.
On les a transplantés les reins de quelqu'un d'autre.
On les a enlevés, on les a jetés. Et mon grand frère, qui est médecin, il m'a donné un rein. Donc lui vit avec un rein, moi j'ai un rein. Si on cherche celui qui a un rein de quelqu'un d'autre, je suis là. Il faut que les gens puissent le savoir que c'est possible de vivre avec un rein. Moi je vis avec un rein, mon grand frère vit avec un rein. Et tout ce qu'on raconte dans la rue chez nous ici, on a kidnappé quelqu'un pour donner les reins.
Pour donner les reins, tout ça, les vendre.
C'est impossible. Donc, ce sont des gens qui distillent des informations vraiment pour abrutir les gens. Ça ne peut pas se faire, c'est impossible.
Et depuis lors, vous avez mis en place une association des personnes avec maladie des reins, c'est ça?
Oui. Donc, depuis 2015, j'étais greffé. Nous sommes en 2024. Vous comptez le nombre d'années. Ça fait longtemps, donc je continue à vivre. Moi, j'ai toujours dit que c'est vrai que Dieu aime tout le monde, mais moi je suis le bien-aimé de Dieu, parce que je continue à vivre.
Et quelle hygiène de vie vous adoptez avec un
très
seul
bien.
Rein?
Une vie normale. Normale, je fais tout, je travaille. D'ailleurs, même au travail, on pense que j'ai beaucoup d'énergie. J'arrive le premier au bureau, je sors le dernier. Et j'ai créé l'association pour justement, parce que beaucoup de gens ont cette maladie dans notre pays. Certains sont greffés, mais ils ne veulent pas informer. J'ai dit, moi je vais briser le silence. Je vais informer pour prévenir que les gens ne nous rejoignent pas. C'est pas facile d'être malade des reins. L'association existe depuis 2016. Cette association a trois axes. L'axe de prévention, l'axe d'accompagnement et l'axe de défense des droits des malades. C'est avec cette association des malades des reins, à CEPAMAR, avec l'association des médecins, SOCONEF, Société Savante, nous avons, avec l'aide d'autres professeurs d'université, on a mis au point l'avant-projet d'avoir proposition de loi sur la transplantation d'organes. C'était préparé par les deux associations ainsi que d'autres professeurs. C'est pour que nous puissions chez nous, parce que nous...
Donc on puisse autoriser...
C'est déjà autorisé.
C'est déjà autorisé
chez nous. Chez nous, la loi, la constitution, la loi sur la santé publique a déjà autorisé la transplantation d'organes. Quelqu'un peut arriver aujourd'hui, il installe, il commence à greffer. Donc la loi là, c'est une loi pour encadrer le secteur, parce que comment protéger le donneur, comment protéger le receveur, comment protéger le médecin, comment protéger, donc un peu, celui qui commet une faute pénale, comment on peut le poursuivre? Ce n'est pas une loi qui autorise la transplantation, c'est déjà autorisé.
Alors c'est ainsi que... Et votre association regroupe combien de personnes aujourd'hui?
Non, nous avons plusieurs personnes. Actuellement, nous sommes installés sur quatre provinces. Kinshasa, Lualaba, Sud Kivu, Nord Kivu. Je n'aime pas citer Nord Kivu parce que je venais de perdre beaucoup de membres là à cause du coût de la dialyse.
D'accord.
Ils étaient malades en dialyse, ils ne savaient pas payer. Ils sont décédés presque en rafale. Donc chaque jour qui se suivait pendant un temps là, ils sont partis, ça nous a fait très mal. C'est ainsi que je me rejoins à ce que le professeur Moukoli disait ici, que qu'on nous prenne en charge nous les malades de reins, surtout ceux qui sont en dialyse. La communauté santé universelle, c'est vrai, elle a commencé par la maternité, mais qu'elle vienne vite chez nous, parce que beaucoup de personnes souffrent de maladies, ils sont sous dialyse. Il y en a beaucoup dans nos hôpitaux ici à Kinshasa. Et pendant la semaine des reins, nous allons les visiter. Ils ont besoin d'avoir un assouplissement de la dialyse. Moi, je l'ai fait à l'étranger. J'étais un étranger, j'ai payé combien? $2, $3, $5, $10, parce que je suis un étranger. Et même là où j'étais, en Inde, et à un certain endroit, c'était gratuit. Donc nous voulons arriver à ce niveau-là. Et puis,
Est-ce qu'il existe un programme national, professeur Vieux-Moukoli, est-ce qu'il y a un programme national de lutte contre les maladies rénales ici?
Il y a un programme de lutte contre les maladies non transmissibles. Ce programme existe contre l'hypertension, contre le diabète sucré, mais il n'y a pas encore un programme de lutte contre les maladies rénales en particulier. Donc,
ailleurs, ça existe ou bien c'est...
Ici, ailleurs, ça existe.
Ça existe déjà.
Ça existe. Il y a vraiment une organisation telle que les malades sont pris en charge depuis les premiers stades jusqu'au stade terminal. Donc, nous voulons que nous puissions tendre vers ça, qui est vraiment un programme de lutte contre les maladies des reins qui doit être intégré dans les programmes de lutte contre les maladies non transmissibles en général, et qu'on puisse vraiment donner à ces programmes les moyens nécessaires pour assurer la prévention, les dépistages, les traitements, et pourquoi pas jusqu'à la greffe rénale. Ce serait vraiment idéal pour la population de notre pays.
Professeur Justine Boukabaou, c'est donc à entendre le témoignage de M. Télésphore, on peut vivre avec un seul rein.
Affirmatif. En fait, quand nous disons, au départ, on a dit que une personne a deux reins. Ça, c'est la majorité. Mais on peut naître avec un seul rein. On peut naître avec trois reins.
C'est une malformation.
Ça, c'est des cas particuliers. Oui. Mais en fait, une personne peut vivre correctement avec un seul rein sans problème. C'est le cas des personnes qui naissent avec un rein. C'est le cas des personnes qui donnent les reins aux autres pour sauver la vie. Et eux-mêmes restent avec un seul rein. On peut vivre avec un rein.
Ça ne va pas créer un déséquilibre dans l'organisme ?
Non, ça ne va pas créer le déséquilibre parce que le rein a une grande capacité d'adaptation. Donc en fait, il y a une compensation qui se fait. Le seul rein là qui reste est à mesure de faire le travail des deux reins. C'est ce qui explique d'ailleurs que pendant longtemps, on peut souffrir de maladies de rein sans pour autant qu'il y ait des symptômes. Parce que au fur et à mesure que les unités fonctionnelles qui sont les néphrons sont détruites, les restes des néphrons fonctionnels doublent leur capacité de fonctionnement pour compenser. Et c'est le même principe, quand on a un seul rein, ce rein-là va faire le travail de deux reins et la personne va vivre normalement.
Alors parlons à présent de la prévention, professeur Justine Boukabaou. Comment prévenir les maladies rénales? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Merci beaucoup. Pour prévenir les maladies de rein, je vais commencer par vous dire qu'en fait, la journée mondiale du rein, cette année, le thème, c'est la santé rénale pour tous. Promouvoir l'accès équitable aux soins et favoriser l'usage optimal des médicaments.
Un instant, professeur, on fait signe qu'il y a un auditeur qui nous appelle de Kinshasa, Maître Oumar Kigalo, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody, et bonjour aux invités.
On vous écoute.
Merci, Monsieur Jody, du verbe que vous m'accordez. Le temps faisant défaut, je pose ma première question rapidement. Est-ce que la consommation régulière de l'alcool et du tabac peut aussi être à la base de maladies rénales? Deuxième question. Moi, j'ai l'habitude de manger souvent la noix de cola et les produits qu'on appelle ngadiadia. Certains médecins disent que la consommation de ces produits affecte le rein. Est-ce une information scientifiquement confirmée? Troisième question. À entendre ce que les invités disent et les témoignages de M. Télésphore, on est un peu dans la peur. On s'est dit il y a un danger, il y a péril en demeure. Bah, pour ce faire, quelles sont les techniques de prévention que nous devons utiliser, nos populations, pour ne pas avoir de telles maladies? Quatrième, ils ont parlé d'un test là, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de signes alarmants ni encore de signes cliniques. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un signe particulier comme on voit avec les cancers, où on dit aux gens qu'ils peuvent aller faire la mammographie ou quoi? Est-ce qu'en matière de rein, même si on n'a pas de signe, on peut aller à l'hôpital, il y a un examen spécifique pour découvrir tout si on a les reins ou pas? Autre question, on dit actuellement l'automédication est aussi à la base. On a l'habitude de prendre des produits tels que Ibucap, quand on a des maux d'estomac ou des maladies. On nous interdit de prendre cela. Est-ce que la consommation de médicaments sans ordonnance peut aussi affecter les reins? Dernière question, je dis, parce que l'émission est importante. Est-ce qu'il y a des nourritures appropriées pour entretenir les reins? Quand je pars souvent plaider à Kikole, il y a des femmes qui passent avec la cruche pour dire Sokola barin, Likas, Sokola barin. Est-ce qu'il y a des médicaments qui entretiennent les reins?
Pour entretenir les reins.
Pour qu'on puisse en consommer régulièrement. Et moi, je consomme l'imbika depuis là. Dans ma tête, je pense que j'ai lavé mes reins.
L'imbika. Merci beaucoup pour l'émission. Qui vous a dit que l'imbika purifie les reins?
C'est mon genre là, voilà les vendeuses. Hein. D'accord. Quand même, la cause, j'ai dit papa,
chocolat,
j'ai ça. Et j'en mange régulièrement avec l'idée que l'effet de manger la cause purifie les reins. Est-ce que les invités peuvent confirmer ça?
D'accord. Le témoignage de M. Télésphore, vous avez fait peur. Maître Omar a eu peur.
Non. On ne peut pas avoir peur.
Oui.
C'est vrai, il faut avoir la prudence. Oui. Il faut être prudent. Mm. Parce que quand on vous dit ce que nous avons vécu nous autres ici, c'est exceptionnel. Donc il faut être prudent. C'est quoi? C'est que les médecins sont ici, les professeurs, ils vont répondre à tout ça.
D'accord.
Mais nous avons des règles d'or dans la vie. Il y a plusieurs règles. Ne pas fumer, ne pas prendre l'alcool, éviter le sel.
C'est ça, il demande, est-ce que l'alcool, le tabac, les noix de cola...
Bon, là, le médecin ça... peut parler, mais en tout cas, il faut vivre une vie équilibrée, d'une manière générale. C'est pas trop de viande, pas trop d'huile, des choses comme ça. Et sincèrement, c'est une maladie à éviter. Et la meilleure des solutions, c'est qu'il faut d'abord aller chez le médecin lui-même pour vérifier son état. Quand il a posé la question, moi je le suggère, comme un malade, je dirais même un ancien malade, allez chez le médecin, allez faire les examens que le médecin va vous donner le nom ici pour qu'on voie d'abord l'état de vos reins.
D'accord. Je reviens à vous, professeur Justine. Voilà. Est-ce que la consommation de la noix, des colas, de l'alcool, du tabac, l'engadiadia, je ne sais pas comment on appelle cela en français, est-ce que tout ça, ça peut conduire, ça peut amener à développer les maladies rénales?
Merci pour la question. Les produits naturels, comme nous disons nous-mêmes, bio. Il y a beaucoup de produits naturels qui ne sont pas forcément bons pour la santé, surtout en excès. Il y a une étude qui est en train d'être réalisée dans notre service par un de nous, le docteur Nzinga, pour étudier justement tout ce que nous avons l'habitude de prendre pour faire la part des choses. Parce qu'en fait, quand il n'y a aucune étude réalisée qui confirme l'innocuité d'un produit, il faut s'abstenir. Beaucoup de produits sont néphrotoxiques. Les plantes médicinales, un grand nombre de ces plantes-là sont néphrotoxiques. Et quand on ne sait pas, quand ce n'est pas prouvé, qu'on a fait une étude montrant que ces produits n'est pas néphrotoxique, autant l'éviter. Quand les mamans se promènent avec des racines disant « soukola barin » et tout ça, c'est... Ces mamans-là veulent vendre,
oui, c'est
mais il
n'y
a aucune étude réalisée. Donc, on ne peut pas suivre ce que les mamans disent pour s'attacher à cela et dire qu'on est en train de prendre un produit qui nettoie les reins. Il n'y a aucun produit qui nettoie les reins. Aucun. Il y a aucun.
L'imbica, tout ça, la
non, il n'y a aucun produit qui aucun nettoie problème. Les reins. Non. Mais je vais peut-être répondre à la préoccupation que vous aviez posée avant. Je ne sais pas.
C'était de savoir les moyens de prévention, comment prévenir la... les maladies rénales.
C'est ça. Pour prévenir les maladies de rein, nous allons nous dire ceci. Un, nous sommes en présence d'une personne qui n'a pas d'atteinte de rein du tout. Une personne qui n'a pas d'atteinte de rein, ça peut être une personne qui a les facteurs de risque d'atteinte de rein ou une personne qui n'a pas de facteurs de risque. Pour tout le monde, il faut éviter de fumer. Fumer, c'est mauvais. C'est démontré que c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, ça altère la fonction rénale. Ça contribue à l'insuffisance rénale. Donc,
fumer c'est mauvais. Fumer, c'est préjudiciable à la santé.
Exactement. L'excès d'alcool également est mauvais parce que c'est un facteur de risque cardiovasculaire également. Donc, il faut éviter de prendre l'alcool. Mais en dehors de cela, première chose, nous devons faire l'exercice physique. Il faut éviter d'être sédentaire. Les gens ne veulent pas bouger. 30 minutes d'exercice physique régulièrement, au moins 30 minutes. Si on peut faire plus, c'est mieux. C'est pas l'exercice physique d'un seul jour et on va à un endroit X pour aller manger et boire pour récupérer tout ce qu'on avait.
Qu'on a perdu, là.
Oui, là, ça ne c'est pas ça.
Oui.
Donc, l'exercice physique que nous conseillons, c'est au moins 30 minutes d'exercice physique, la marche par exemple, chaque jour. Deuxième chose, nous devons éviter de prendre la nourriture trop salée, éviter de prendre beaucoup de sucre. Le sucre en excès est mauvais pour tout le monde, même quand on n'est pas diabétique. Donc, il faut l'éviter. Il faut...
Même pour les enfants qui prennent trop de sucreries à l'école,
c'est mauvais parce qu'en fait, ils préparent. C'est ça, ils s'exposent aux maladies cardiovasculaires, notamment au diabète sucré. Il faut éviter. Il faut prélever la pression artérielle régulièrement. Parce qu'en fait, l'hypertension, c'est un tueur silencieux, l'hypertension artérielle. On ne sait pas dire qu'on a une hypertension artérielle ou non si on ne va pas vérifier sa pression artérielle. Mmh. Il faut également contrôler son taux de sucre régulièrement pour savoir si on a un diabète sucré ou pas. Il faut également éviter l'automédication que le professeur venait d'évoquer tout à l'heure parmi ces questions. Parce que dans cette automédication-là, les gens prennent n'importe quoi et
sans quantité, sans prescription.
Ignorer, donc la posologie n'est pas connue, la durée n'est pas connue. Ça, c'est très mauvais. Et en particulier, il l'a cité, l'Ubicap, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le professeur Moko l'avait dit, sont néphrotoxiques, sont à la base des insuffisances rénales. Il faut éviter également certains antibiotiques comme les aminosides. L'exemple, c'est la gentamicine, la micacine. Ce sont des médicaments qui causent l'insuffisance rénale.
D'accord. Mais il semble que le fait de boire beaucoup régulièrement, prendre 2 ou 3 litres d'eau par jour, ça purifie les reins.
Je vais y arriver.
Oui.
Il faut éviter également, quand on doit faire les examens des laboratoires, on doit s'assurer, la radiographie, les scanners, on doit s'assurer que ces reins fonctionnent bien. Sinon, il faut qu'on fasse les dosages d'abord des déchets dans le sang pour être sûr.
D'accord,
sinon,
je reviens à vous. Une question.
La boisson.
La boisson, oui, allez-y.
La boisson, c'est très important de boire suffisamment d'eau. Mmh. Pourquoi on doit boire suffisamment? Le professeur l'avait dit ici. Les reins gèrent la quantité d'eau du corps. Et en gérant la quantité d'eau du corps, les reins vont se priver d'eau quand il n'y a pas assez. Nous urinons tous les jours environ 1,5 litre que nous évacuons d'urine par jour. Mais cette quantité d'eau que nous perdons dans l'urine, nous devons récupérer. Mais nous ne perdons pas l'eau que par l'urine, par la transpiration, par exemple, par les selles. Donc, il faut boire au moins minimum 1,5 litre, mieux 2 litres. Mais quand il fait chaud, ou bien
comme actuellement, il fait très chaud.
Il fait très chaud. Là, nous devons augmenter les apports hydriques. Donc, on doit boire plus. Mais je souligne le fait que nous sommes contre la cure d'eau. On ne peut pas boire les 2 litres en une fois, 3 litres en une fois ou 5 litres même.
Là,
non,
c'est pas bon.
C'est mauvais. Parce qu'on va surcharger les reins en un instant. Et ce n'est pas conseillé.
D'accord.
On doit répartir l'eau sur la journée. Donc on doit boire de manière régulière en répartissant l'eau qu'on est en train de prendre. Mais il faut boire régulièrement. Parce qu'en buvant, ça nous permet d'éliminer les déchets. Ça nous permet, ça empêche la formation des calculs, comme venait de le dire le président Ndouba.
Oui.
Ça va empêcher en fait la formation des calculs. Quand on boit suffisamment, il y a suffisamment d'urine, ça permet d'éliminer tout ce qu'il y a comme substance dans l'urine avant que cela ne forme des calculs.
Professeur Viemokoli, il y a une question. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour quelqu'un qui a des reins en fer à cheval? Qu'est-ce que cela veut dire, en chair à cheval? Et puis, bon, voilà.
En fer à cheval.
Oui. Voilà. Les reins en fer à cheval, c'est une malformation congénitale. Donc, c'est une malformation des positions des reins.
OK.
Hein, donc, les deux reins sont en position horizontale et qui sont presque collés. Ah, c'est ça, les fer à cheval.
Fer à cheval.
Oui. Alors, généralement, les reins en fer à cheval fonctionnent bien. Il n'y a pas de problème de fonctionnement, mais seulement exposent aux calculs rénaux et aux infections. Voilà pourquoi il faut être très prudent. Quand on a des reins en fer à cheval, il faut être prudent pour boire suffisamment, comme on l'a dit. Il faut boire autour des 2 litres. Il faut éviter aussi... il faut être beaucoup plus regardant par rapport au reste de la population. Parce que déjà, on a une malformation qui peut favoriser les infections urinaires, qui peuvent être à la base des insuffisances rénales, qui peut favoriser des calculs rénaux, donc qui peuvent aussi altérer... ou bien causer la maladie rénale chronique. Voilà pourquoi il faut être très prudent. Mais ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut jamais opérer ça. Parce qu'on a vu des cas de personnes qui avaient des reins à faire à cheval et que certains ont opéré, ils ont enlevé les reins.
Oh là là.
Et après, ils ont confondu, ils ont cru que c'était une masse qui n'était pas des reins.
Et la personne est décédée.
La personne n'urinait plus et devait maintenant être en dialyse toute sa vie.
C'est un drame.
Donc, on n'opère pas ça, mais on prend des mesures pour prévenir les infections et les calculs qui peuvent survenir sur un terrain de malformation rénale.
Bien, nous parlons aujourd'hui des maladies rénales. Quelles sont les causes, les symptômes et comment les prévenir? Docteur John Lumbu nous appelle de Kinshasa. Bonjour docteur.
Oui, allô.
Oui, bonjour docteur Lumbu.
Allô monsieur, oui. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les invités et bonjour à tous les auditeurs de la radiographie.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, docteur, rapidement sur les maladies rénales?
Oui, messieurs les... Oui, bonjour. Je disais, j'avais juste une demande à messieurs les, à nos invités.
Oui. Quelle est cette demande?
Je demandais, est-ce que c'est possible à toutes les personnes qui souffrent de la diabète et de l'hypertension artérielle, est-ce que c'est possible qu'ils puissent développer de la maladie de l'insuffisance rénale?
Voilà, est-ce que ceux qui souffrent du diabète et de l'hypertension peuvent-ils les développer? Professeur Justine, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Donc nous continuons alors avec ce qu'on était en train de dire tout à l'heure.
D'accord.
La deuxième branche, c'était qu'en fait, dans la prévention, il y a le deuxième groupe, les gens qui ont les facteurs de risque. Donc nous savons, le professeur Moko l'avait dit au début, parmi les causes d'insuffisance rénale ou de la maladie rénale chronique, nous avons l'hypertension artérielle, les diabètes sucrés, les infections chroniques et les maladies héréditaires ou les maladies qui sont transmises par les parents. Alors, l'hypertension et le diabète étant les premières causes de maladies rénales chroniques, nous devons, les diabétiques doivent suivre, respecter en fait son traitement du diabète. Mais si les diabétiques négligent le traitement du diabète, les régimes ainsi que les médicaments, l'évolution va se faire vers l'insuffisance rénale. Parce qu'en fait, les diabètes sucrés comme l'hypertension artérielle sont des causes d'insuffisance des rénales ou des maladies rénales chroniques, mais également ça favorise l'évolution rapide, dont nous appelons ça des facteurs de progression. Donc non pas seulement que ça va abîmer les reins, mais ça va favoriser l'évolution rapide vers le stade terminal qui va nécessiter la dialyse ou la transplantation des soins qui sont très chers. C'est ce qui explique que même au niveau international, la journée mondiale a été instituée pour sensibiliser la population. Parce qu'en fait, les gens parfois sont ignorants.
Je pense qu'une journée ne suffit pas. Il faut peut-être quand une sensibilisation à
on les continue,
échelle, hein?
Mais ces jours-là, on fait les stops pour dire tous parlons le même langage. Parce qu'en fait, il y a des gens, généralement, quand tu lui dis, écoutez, vous avez de l'hypertension artérielle, il va dire, Non. L'hypertension d'un jour, c'est l'hypertension de tous les jours.
Oui.
Et c'est l'une des causes de maladies des reins.
D'accord. Monsieur Télésphore, vous êtes président de l'association des personnes avec maladies, vivant avec maladies rénales. Est-ce que je peux supposer qu'à l'époque, vous ne preniez pas beaucoup d'eau? Est-ce que ça peut être l'une des causes de...
On ne sait pas.
On ne sait pas. Hein?
On ne sait pas exactement. Mais je prenais quand même de l'eau, mais je ne mange pas.
De l'alcool?
L'alcool, je prenais aussi. Oui. Je prenais, mais pas beaucoup.
Pas beaucoup.
En tout cas, c'est une chose qui est arrivée.
Et comment vous faites pour sensibiliser à l'occasion de cette journée aujourd'hui?
D'abord,
est-ce que vous avez des activités?
Beaucoup d'activités. C'est toute la semaine, tous les mois. Et nous en avons d'autres pour l'année. Et aujourd'hui, nous avons une activité où je demande à travers votre radio que chacun prenne une bouteille d'eau. Tu peux prendre un litre d'eau pour tous ceux qui nous suivent, même ceux qui posent des questions, ça sera déjà quelque chose de bien. Deuxième chose, saluer les membres de notre association et ceux qui sont sous dialyse pour leur donner espoir que non, c'est pas la fin, hein, le maladie de rein, c'est pas la fin de la vie. Moi, j'ai vu, j'ai souffert de ça, j'ai vu. Et puis, demander également à ce que, comme disait le professeur Moukoli, que le gouvernement nous aide à pouvoir soutenir les malades en dialyse qui ont un poids sérieux de coûts, de dialyse. Et les activités que nous comptons, c'est d'abord passer par les médias. Nous venons d'être reçus par les autorités au niveau du palais de la nation.
De la nation, oui. Hein?
Donc, le télécabinet adjoint en charge du progrès social nous a reçus pour faire passer notre message auprès de...
D'accord. On n'a plus beaucoup de temps. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus.
Oui.
Nous disons merci au professeur Justine Boukabao et merci au professeur Vieux Moukoli, monsieur Télésphore, à vous-même. Merci. Nous espérons vous retrouver la prochaine fois pour continuer ces échanges sur les maladies des reins. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.